Alléluia. Je propose qu'on applaudisse le Seigneur, celui qui fait trembler les ténèbres, qui agit avec puissance, qui a la victoire dans chacune de nos vies. Alléluia. Amen. Il y a un mois, j'ai pu partager avec vous un message intitulé « À travers le ciel ». Et on s'est posé la question de pourquoi parfois il y avait un écart entre nos prières et puis les exaucements de prières, ou entre les promesses reçues et puis les accomplissements. Comme si des fois les réponses, elles restaient coincées quelque part là-haut. Et en nous penchant sur le récit de Paul dans 2 Corinthiens 12, on a vu qu'il a vécu une expérience incroyable. Il est dit dans la Bible qu'il a été enlevé au troisième ciel, dans la présence même de Dieu. Et donc on a réalisé, et le message était là-dessus, sur le fait qu'il y avait comme trois ciels, pas seulement comme, mais il y a trois ciels avec le Père sur son trône qui règne dans la gloire. Et on a vu par la suite avec le récit du prophète Daniel qu'il y a aussi un deuxième ciel, et même un combat spirituel en différentes puissances du mal, des anges, etc. On a vu dans ce récit de Daniel qu'un ange était retardé parce qu'il y a des puissances du mal qu'il combattait. Et Daniel a dû attendre, lui qui était au premier étage, j'allais dire, qui était ici sur terre et qui priait que Dieu, qui est au troisième ciel, intervienne. Il y a une interférence, un combat au deuxième ciel et il attendait la réponse. Et on a dit avec le sourire que c'était ses fichus voisins du deuxième qui empêchaient la réponse de venir. Et il a dû attendre 21 jours. Il a dû attendre 21 jours pour qu'il puisse avoir la réponse. Et on a pu voir qu'il y a cet appel de Dieu aussi sur chacun d'entre nous à ne pas juste subir les atmosphères ou les oppressions spirituelles qu'on peut parfois ressentir. Alors des fois, on peut être nous-mêmes découragés, mais des fois, c'est des atmosphères. C'est comme quelque chose qui est au deuxième niveau, au deuxième étage, au deuxième ciel qui peut être là, ou de l'abattement qui peut être là dans l'air. Et de ne pas juste des fois rester sous un ciel qui peut être plombé, mais à réaliser que notre position spirituelle, c'est d'être assis avec Christ dans les lieux célestes, au troisième. Et c'est là qu'on va régner avec lui, à la droite du Père. Et on voit ça dans Éphésiens 2, 6. Et vous pouvez d'ailleurs réécouter le message sur le site. Franchement, en toute humilité, je pense que ça vaut la peine. Moi-même, je l'ai réécouté. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas juste envie d'entendre des choses, mais j'ai envie de les vivre. J'ai envie de vivre ces choses. Et en les entendant, en me replongeant, j'ai envie de pouvoir aller dedans et toujours plus les vivre. Et pas juste, il y a eu un message une fois, super, on zappe à la suite. Mais j'ai envie de vivre ce que d'autres orateurs, ce qu'on étudie ensemble dans la parole ou autre. Et pas juste subir des fois les aléas de la météo spirituelle, mais de pouvoir voir les choses d'en haut et de rentrer dans ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai vraiment à cœur de prêcher la suite. J'aurais pu parler de plein de sujets, mais je sens qu'il faut aller un pas plus loin encore dans ce sens. Mais vu que j'ai fait un petit résumé, juste pour commencer, un peu comme quand vous reprenez une série Netflix, il y a le petit début qui vous a rappelé ce qu'il y avait avant, c'est ce que je viens de faire jusqu'à présent. Ça vous a fait un petit résumé du message précédent que j'ai fait, mais j'avais vraiment à cœur de prêcher la suite pour aller un pas plus loin. Est-ce que ça vous dit ? Super, merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous avez dit non. Je n'avais pas un autre sujet sous la main comme ça. Parce que finalement, dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire vraiment régner avec Christ depuis le troisième étage, depuis les lieux célestes? Et comment le vivre ici alors qu'on est humainement et concrètement sur terre? Et comment le vivre quand il y a parfois des sacrées interférences, quand même des fois au deuxième ciel, au deuxième étage, où il y a des combats? Et le titre de mon message ce matin, c'est « La prière du troisième ». Alors, celui qui n'avait jamais vu ça, puis qui l'a vu sur Instagram, il devait peut-être se demander ce que c'était, mais c'est du troisième ciel, c'est de là-haut. Et la prière du troisième, c'est-à-dire c'est cette prière du ciel qui change tout, qui traverse le ciel, qui dit bonjour au voisin du deuxième en passant, et puis qui vient accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Parce que c'est ça qu'on veut, que ça bouge ici, sur terre, comme ça bouge dans le ciel. Amen. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais prier, Seigneur, je te prie ce matin que ce ne soit pas juste des versets, des paroles, un message, mais Seigneur, on veut toujours plus rentrer dans ce que toi, tu as envie qu'on vive. Et je te prie, Seigneur, que ce soit entre les phrases que je dis, que tu touches directement les cœurs en parlant directement par ton esprit, que ce soit par un slide, que ce soit par un verset, que ce soit par ce message. Mais parle-nous, Seigneur, que la révélation de Dieu soit vraiment présente ici. Touche les cœurs, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous montrer vraiment comment prier, comment faire bouger les choses ici. On a tellement envie de voir les choses qui se passent, que ça bouge ici sur terre. Et Seigneur, je veux vraiment proclamer un ciel ouvert ce matin, ici dans ce lieu. Amen. Et avant d'aller plus loin, j'avais juste cette pensée en particulier, peut-être d'une personne, soit qui est ici présente dans cette salle ou qui nous écoute, pas en live, c'est pas encore, on ne le fait pas pour l'instant, mais en différé sur le site, le message. Je sentais vraiment cette, comme une, parfois tu ressens peut-être une oppression, même physiquement ça te serre comme une douleur, tu te demandais même si c'était peut-être physique ou psychique, où tu te posais des questions, ça arrivait plus d'une fois. J'aimerais vraiment proclamer maintenant la libération au nom de Jésus. Sois libéré de toute oppression, angoisse, tout ce qui t'enserre la cage thoracique maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit de crainte, de maladie et de mort, tu dégages au nom de Jésus. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, il veut qu'on soit dans la liberté, pas qu'on soit dans la crainte de quelconque malheur ou autre, mais qu'on puisse vraiment être dans la liberté. Et pour en revenir à cet écart parfois entre les prières, entre nos prières et l'exaucement, mais aussi entre cette gloire magnifique du ciel et ce qui se vit sur la terre, il y a un verset qui me frappe particulièrement dans la Bible par rapport à la prière et par rapport à l'exaucement. C'est dans Jacques 4, le verset 3, où il est dit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions ». Or, quand tu tombes sur ce verset, tu t'es exprès levé plus tôt le matin pour prendre un temps avec le Seigneur, tu te réjouis de prier, de lire la parole, puis tu tombes là-dessus, franchement, c'est pas très encourageant. Moi, j'ai déjà vu plus encourageant, en tout cas. Et pourtant, le Dieu que je connais est un Dieu d'encouragement et jamais de découragement et d'accusation. C'est la stratégie de l'accusateur de décourager. Et on le sait, il peut même des fois utiliser des vérités pour plomber ou pour nous décourager. Mais ce verset, s'il remet effectivement certaines choses en place, il donne un espoir. Il donne même un espoir fou. Parce que ça veut dire que prier, ce n'est pas juste de la loterie, où de temps en temps, une prière marche, mais tu ne sais pas pourquoi elle a marché, puis tu ne sais pas pourquoi les autres, elles n'ont pas marché. Un peu comme si tu joues chaque semaine à l'euro-million, régulièrement, sans succès, puis un jour, tu reçois un téléphone. Puis il y a l'organisateur qui te téléphone, qui dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, en fait si vous ne gagnez jamais, c'est parce que vous avez une mauvaise stratégie de cocher les numéros. » Alors ça ne serait pas forcément de bonne nouvelle, mais ça pourrait l'être, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une stratégie qui fait qu'on arrive à gagner. Alors mon exemple avec l'euro million s'arrête ici, parce que sinon je serais riche, puis j'aurais 3 Rolex à chaque bras, je serais déçu d'avoir que 2 bras. Mais ce verset, qui peut sembler négatif, parce, quelque part, parce qu'en demandant mal, on ne reçoit pas, on n'est pas exaucé, en fait, ça signifie qu'il y a une façon de demander qui permet l'exaucement. Il y a une façon de demander qui permet l'exaucement. Si en demandant mal, on n'a pas, ça veut dire qu'en demandant bien, il y aura un exaucement. Donc, ce n'est pas si négatif que ça, c'est même un espoir fou, ce verset, si on le prend dans le bon sens. Et c'est pour ça que les disciples, à un moment donné, ils demandent à Jésus, et puis, on le voit dans Luc 11, ils lui disent, « Alors, dis-nous comment on doit prier. Avec toi, ça marche quand tu pries. Mais dis-nous comment faire, alors. » Et dans cette perspective du ciel qu'on a vue dans mon précédent message et le petit résumé d'avant, c'est assez fou. Et Jésus va commencer avec cette introduction, et il va dire la chose suivante, « Notre Père qui est aux cieux. » Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste une introduction à la prière, mais ça nous montre non seulement à qui s'adresser, mais où s'adresser. Et notre prière, ce n'est pas juste une lettre où on met une adresse, le Père qui est au ciel, puis le numéro postal 7777, le ciel, et puis on envoie notre prière, puis on espère, peut-être qu'elle croisera le Père Noël en passant, et qu'elle va arriver. Ce n'est pas ça. Ou, comme un petit avion en papier, on écrit notre prière, et puis, on lance, et puis vous savez que c'est toujours un peu aléatoire, on ne sait jamais où il va hein, quand on fait un avion. Et puis on se dit, j'espère que ma prière, elle va arriver vers le Seigneur. Et puis si elle arrive, qu'il va la lire, et puis qu'il va me l'envoyer en retour. j'espère qu'avec les vents et les aléas, je vais aussi réussir à l'avoir. Des fois, c'est un petit peu comme ça, par hasard, on espère. Non, Jésus leur dit, voilà comment prier. Notre Père qui est au ciel. Autrement dit, c'est, il leur dit, mais reste pas juste ici dans le focus du premier étage, des circonstances ici de la terre, mais va vers le Père. Puis il est où ce Père? Ben, il est au ciel. Et il leur dit, mais quand tu pries, va vers papa. Puis il est où papa? Mais il est au ciel, il est au troisième. C'est là que la prière, elle va être efficace. C'est pas parler ici au Père lointain, en espérant qu'il nous entende à travers ces étages, en espérant que par chance, le petit avion en papier, il arrive au bon endroit. Mais tu vas parler au Père, et il est où? Et il est dans ce ciel. Et c'est là que la prière, elle va être exaucée, parce que tu vas vers ton papa dans le ciel. Et comme nous dit Jacques, justement, quelques versets plus loin, il dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et j'aime bien dans Luc, cette prière du Notre Père, elle est pas seulement dans Matthieu, elle est aussi dans Luc. L'enseignement de Jésus, justement, quand il enseigne sur le Notre Père, ça vient juste après l'histoire de Marthe et Marie. C'est intéressant. Et dans Luc 10, 41, Jésus répond à Marthe, qui s'offusque un peu de ce qu'elle doit tout faire, puis il lui dit, mais Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Autrement dit, il lui dit, hey Marthe, tes désirs, dans un certain sens, ils sont bons. Tu fais tout pour que cette réunion, elle se passe bien. Tu fais tout pour que ce repas ensemble se passe bien. Mais tu t'agites, tu bouges, tu t'agites dans ce premier ciel, ici sur terre, dans la réalité humainement. Par contre, on voit que Marie, elle a choisi la bonne part, elle buvait les paroles de Jésus. Pour elle, tout ce qui était important, c'était d'être connectée à ces vérités du ciel qui étaient données. Et c'est précisément juste après ça que Luc parle de cette prière de Jésus du Notre Père et qui rapporte les paroles de Jésus qui dit « Voilà comment prier, Notre Père qui est aux cieux ». Et ce qui est fou, c'est que même avec Jésus sur terre, donc ils sont là autour de lui, ils lui demandent « Mais dis-nous comment on va prier ». Il est juste là, il pourrait dire « Vous allez quand même parler, parce qu'il est Dieu aussi, Jésus ». Et puis il peut faire la commission. Il dit non. Il ne faut pas juste rester focalisé ici sur terre, mais adressez-vous au Père, au ciel, c'est là. Et dans Matthieu 6, 7, juste avant même de dire cet enseignement-là, il leur dit même, arrêtez de multiplier les paroles vaines, arrêtez de tout expliquer, mais connectez-vous au Père. Et il leur montre de regarder au Père, de regarder au ciel là où est le Père, là où est notre position spirituelle. Et c'est ce qui permet de prier sans brasser de l'air, si j'ose me permettre. Et c'est la bonne part, celle de s'approcher du Père et qui va s'approcher de nous. Et c'est quelque part ça l'enseignement de Jésus à Marthe. Et ça ressort tellement dans Notre Père, où il dit « Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié ». Et là, on arrive à une autre étape. La première étape, c'est ce que j'ai prêché la dernière fois, c'est ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, de vraiment notre position au ciel, chercher les choses d'en haut, se connecter au Père. Et la suite, c'est « Que ton nom soit sanctifié ». Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire tout le Notre Père ce matin, mais qu'on puisse réaliser l'autorité que Dieu nous donne dans la prière. Et là, que ton nom soit sanctifié, ça peut paraître bizarre, parce qu'à première vue, on se dit, mais Dieu, il est déjà saint. Pourquoi est-ce qu'on devrait prier pour que son nom soit sanctifié? On ne peut pas le rendre plus saint qu'il ne l'est. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est saint, puis qu'il est parfait en lui-même. On le voit, par exemple, dans Lévitique 11, 44, où il est dit, « Sois saint, car je suis saint ». Par contre, quand on prie pour que son nom soit sanctifié, on exprime notre désir que la sainteté de Dieu soit reconnue, qu'elle soit reconnue et honorée par tous les hommes, que ton nom soit sanctifié, que tout le monde sache que tu es puissant, que tu es saint, qu'on prie pour rendre gloire à Dieu, reconnaître que Dieu est le seul qui est saint, le seul qui est digne de recevoir notre adoration, notre obéissance. Et ce que Jésus enseigne donc, c'est qu'après s'être connecté vers le Papa au ciel, c'est de l'adorer, de reconnaître sa sainteté, de reconnaître sa grandeur. Et on honore Dieu en proclamant qui il est, on l'honore, c'est aussi une posture d'humilité en proclamant que lui seul mérite d'être sanctifié, d'être honoré. Et on reconnaît qu'il est au-dessus de notre propre réalité, qu'il habite à un autre étage quelque part, qu'il est au-dessus de tout, et c'est là qu'on veut le rejoindre. Et la prière de Jésus, elle commence à prendre tout son sens avec un petit peu le tableau que je vous ai brossé. On se connecte au ciel, à notre Père, au troisième. On se détourne du coup. Quand vous regardez quelque part là, je ne vois plus ce qu'il y a ici. Et en regardant vers le Père, je vais me détourner de moi-même, je vais me détourner même de mes propres sujets de prière, de même de mes propres besoins, pour me focaliser sur lui seul, le seul nom qui mérite d'être adoré, puis d'avoir le focus de toute notre attention. Et c'est une prière qui est en fait une adoration, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, je l'adore, je l'honore, lui le Saint, qui est au-dessus de tout. Et c'est là qu'on arrive à cette posture d'autorité avec la suite du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce n'est pas un appel à l'aide en soupirant, mais que ton règne vienne enfin. Ce n'est pas ça, et qu'il nous rejoigne sur la terre. Mais c'est depuis cette position auprès du Père, dans sa présence, dans l'adoration, alors qu'on a notre focus entièrement sur lui, on déclare que son règne vienne. C'est-à-dire que son règne céleste vienne s'établir sur terre. Que la volonté de Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il désire, soit fait ici. Donc prier, ce n'est pas appuyer, puis appuyer encore sur l'ascenseur, pour qu'enfin il descende du troisième, ou que l'exhaussement descende du troisième. Puis quand l'ascenseur, il ne vient pas, en tout cas moi c'est comme ça quand je suis quelque part, on se dit est-ce que j'ai bien pressé? Puis on presse encore deux, trois fois. Et puis on prie, c'est une sorte d'excitation dans la prière. Et puis on continue pour qu'enfin l'exaucement vienne. Puis on pousse, on prie, et puis, Seigneur, mais que ça vienne cet exaucement. Peut-être qu'on se reconnaît, soit pour l'ascenseur ou la prière, je ne sais pas. Mais c'est peut-être un peu ça avec Daniel, où l'ascenseur, il est comme resté bloqué au deuxième étage. Pendant 21 jours, il prie. Je suis sûr qu'il a, s'il est comme nous, toi et moi, il a dû presser sur le bouton de l'ascenseur pour qu'enfin il y ait l'exaucement et qu'il y ait cette réponse. C'est pour ça que quand l'ange arrive avec la réponse, il vient presque en s'excusant. Il dit « Désolé, j'ai du retard. Hein, moi, je n'aime pas non plus être en retard. Donc là, j'ai du retard. Mais en fait, j'ai été retenu au deuxième ciel. Là, pendant 21 jours, il y a eu un combat. Heureusement, l'archange est venu à mon aide et je suis là maintenant. » Donc, prier avec l'autorité que Dieu nous donne, ce n'est pas appeler l'ascenseur depuis le premier étage en espérant éventuellement une réponse. Mais c'est depuis notre position en Christ, au troisième, avec lui, dans sa présence, auprès du Père, dans l'adoration, comme on a vu. On a vu comment s'y rendre. Mais cette prière avec l'autorité, c'est envoyer l'ascenseur au premier depuis cette position spirituelle qu'on a. Ce n'est pas mendier depuis le bas, c'est alors qu'on est dans sa présence devant lui, qu'on l'a adoré, qu'on a élevé son nom. On va proclamer que son règne vienne, on envoie l'ascenseur en bas, sur la terre. C'est ça, ce n'est pas l'avion en papier envoyé depuis ici en espérant qu'éventuellement il arrive, mais c'est depuis le ciel, je prie pour que les choses se passent sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans cet ascenseur? Et la prière de Jésus, c'est que ton règne vienne, que la volonté qui est au ciel, celle qui est là, elle soit faite aussi en bas. Et c'est là que tout change. Et notre prière, qui peut-être était « Seigneur, interviens, fais ceci, réponds à ma demande », elle va se transformer, en fait, parce que si on est en haut, comment savoir qu'est-ce que je vais dire? On va dire « Ben papa, qu'est-ce que tu aimerais faire et dire dans cette situation ?» Qu'est-ce qu'il faut prier? Qu'est-ce qu'il faut qu'on envoie en bas avec l'ascenseur? Qu'est-ce qu'on va proclamer et prier pour que ça bouge et que les choses se passent? Qu'est-ce que je vais pouvoir prier? Qu'est-ce que je vais envoyer de ma position d'assis avec Christ dans les lieux célestes pour que ça bouge sur la terre? Et l'efficacité de la prière va venir non seulement notre position en Christ, en intercédant avec Jésus auprès du Père, mais en captant la volonté de Dieu là-haut, depuis là-haut, pour qu'elle se passe ici. Et cette volonté de Dieu, elle va s'inscrire dans le terreau de notre cœur, dans notre relation avec Dieu, ce qu'on découvre aussi en lisant régulièrement la Bible. On va toujours plus connaître son cœur, ses valeurs, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, comment il aime agir. Mais précisément comme on vient de voir aussi en cherchant les choses d'en haut, en se focalisant sur lui. Et ça va remettre à leur place peut-être les besoins, les attentes du premier étage ici, en étant avec lui dans sa présence au troisième ciel. Dieu va nous faire comprendre sa volonté. D'où l'importance d'entendre Dieu. C'est pour ça que mon avant-dernier message sur le fait d'entendre Dieu, un Dieu qui parle abondamment, c'est capital. Ce n'est pas juste parce que ça m'encourage ou bien « Ah tiens, j'ai le don de prophétie ». Non, entendre Dieu va me permettre de prier selon sa volonté et donc d'avoir des prières efficaces. Et c'est là qu'on va pouvoir prier depuis le ciel plutôt que de mendier depuis la terre. On va pouvoir prier depuis le ciel plutôt que de mendier depuis la terre vers le ciel. Et la pensée que j'avais dans cette optique aussi, c'est qu'il va élargir aussi notre vision de la terre. Souvent, nos prières, elles touchent des fois nos besoins immédiats. J'ai besoin d'un job, j'ai besoin d'un appart, j'ai besoin d'amitié, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin que telle personne de mon entourage se tourne vers le Seigneur. C'est toutes des bonnes choses et j'espère que toutes soient exaucées. Mais là, depuis le ciel, non seulement j'ai un impact, non seulement j'ai l'autorité, mais Dieu va montrer la terre au-delà de mon monde, au-delà de mon monde. Il va aussi me bénir, d'ailleurs, au-delà de mon attente. Il n'y a pas de souci à se faire si on cherche premièrement son royaume et puis qu'on perd de vue nos propres besoins parce qu'on se focalise sur le Père et qu'on l'adore et qu'il me montre quoi prier. Il va s'occuper par-dessus de tous nos besoins aussi et il va même nous montrer un monde plus large que le nôtre et que notre besoin. Et mes prières vont s'élargir et je vais commencer à prier pour ce qui préoccupe Dieu là-haut. Et surtout ce qu'il aimerait faire descendre sur terre. Un peu comme si la cuisine d'un restaurant était au troisième étage, et puis dans le passe-plat, qui va descendre à la salle à manger, du rez-de-chaussée, on ne va pas juste mettre ce que les gens ils ont commandé, mais on va dire, Seigneur, quelles sont les belles choses qui sont là dans le ciel que tu as envie que les gens goûtent en bas, découvrent, dégustent, qu'il a préparées d'avance, les choses qu'il a préparées d'avance. Et la Bible nous dit justement que c'est au ciel qu'a ses bénédictions spirituelles, dans Ephésiens 1:3, qui nous dit « Béni soit le Dieu, le Père, notre Seigneur, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. » Elles sont là. Et moi, j'ai envie que dans la prière, de les envoyer sur la terre pour les gens qui t'entourent, pour les gens qui habitent autour de moi, qui travaillent avec moi. Et j'aimerais vous laisser quelques clés pratiques aussi pour ça, pour continuer. Cette première clé, je l'avais déjà notée avant que Peter Protero prêche, il y a 2 semaines, et il nous a dit un truc que je vais redire, j'ai trouvé intéressant. Il nous a dit qu'en regardant même, et même en chronométrant les paroles dites quand Jésus y priait, c'était jamais plus de 20 secondes quand il priait publiquement. Et j'ai trouvé parlant. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où soi-même, et Jésus aussi, il a pris du temps où il s'est confié personnellement avec le Père, et je crois qu'on a besoin de lui répandre son cœur, d'être à son écoute. Or ça, c'est plus que 20 secondes. Dieu aime quand on se confie à lui, c'est notre ami, on lui parle, qu'on puisse le vivre, que je puisse le vivre toujours plus. Mais là, je pense aussi les prières, pour que Dieu agisse dans des situations particulières, qu'il ouvre des portes, qu'il bénisse quelqu'un, qu'il guérisse quelqu'un, qu'il délivre, qu'il agisse. La clé, après tout ce qu'on a vu, c'est de se positionner, c'est d'être loin de cette pression du premier étage, d'être dans cette présence de Dieu, dans cette attitude d'adoration, focalisée sur Dieu. Et l'idée n'est pas d'écrire un roman en priant longuement, en y décrivant tout ce qui se passe, mais d'envoyer plutôt l'ascenseur du troisième au premier, avec des paroles de vie pour que les choses se passent. Et là, on voit dans Matthieu 6:6, un verset qu'on connaît, où il est dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » C'est ce qu'on vient de voir, le fait de se connecter au Père dans le lieu secret. C'est exactement ça. Puis ensuite, il dit « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Alors, je ne sais pas de quel autre peuple il parlait, ou s'il parlait des Neuchâtelois. Parce que des fois, on a envie de multiplier. Puis plus on explique, puis qu'on tourne dans tous les sens notre prière, on espère que peut-être, plus on plie bien notre petit avion en papier, plus on espère qu'il va atteindre la destination. Et il dit au verset 8, « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. » Et au premier ciel, ici sur terre, on est tenté de focaliser les prières sur les obstacles, sur les problèmes, sur les manques. Humainement, on est tenté de décrire à Dieu toute la situation pour qu'il sache bien comment c'est, peut-être dans quelle mouise on est. Et puis des fois, on lui dit même comment il doit répondre. « Oh Seigneur, tu vois ceci, mais si tu pouvais faire ceci, puis comme ça, puis Seigneur. » Et puis voilà, c'est fou. Pourtant, il sait déjà tout. Alors il aime quand on se confie, quand on lui dit ce qu'on ressent, etc. Bien sûr, c'est une amitié. Mais parfois, on peut prier comme si on faisait une peinture. Et puis on lui brosse le tableau en précisant tous les petits détails. Tu vois, Seigneur, ceci, puis il y a ça, puis il faudrait que tu... Puis, ah, puis je t'ai pas dit ça encore, puis ceci. Et il sait déjà tout. Mais ce n'est pas ça, la prière. Pas celle forcément qui est efficace. Ça, c'est un dialogue qu'on peut avoir. Ça, c'est une narration descriptive. L'importance du message que Dieu parle, de voir et entendre ce que le Père dit et fait pour pouvoir le dire et le prier sur terre. L'efficacité de la prière, c'est justement le fait de prier selon ce que le Père dit est fait. Et du coup, en ayant entendu Dieu, si on l'entend, on va pouvoir prier avec efficacité. Et c'est mon deuxième point ce matin, justement la prière de foi. Après ce Notre Père, prière du ciel, c'est la prière de la foi. Et ce même Jacques, fameux Jacques, qui nous a un petit peu chiffonné au début de ce message, il dit juste un chapitre plus loin, au chapitre 5, verset 15, il dit « La prière de la foi, elle sauvera le malade ». Quand on prie avec foi, on prie parce qu'on est convaincu que Dieu peut, que Dieu veut agir, guérir et exaucer. Et puis on en est convaincu. Et cette foi, elle vient comment ? Si elle n'est pas vraiment là. Et la clé, c'est comme un ingrédient. Vous savez, quand on cuisine un peu, il y a des choses, on met ça dans toutes les sauces. Et puis ça se passe bien. C'est un peu comme Romains 10, 17, avec un verset qu'on utilise des fois à toutes les sauces, où il est dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et là, pour moi, en lisant ça à la suite de tout ce message qu'on a déjà dit jusqu'à maintenant, c'était comme une révélation. Bingo, les pièces de puzzle commencent à s'emboîter. On a vu que Dieu, il parle abondamment. On a vu que Dieu nous encourage à chercher ces choses d'en haut, à aller vers ce ciel, à ne pas nous battre juste ici, dans le concret, ni même à décrire méticuleusement à Dieu tout ce qu'on voit dans ce premier ciel et les problèmes. On a vu de ne pas rester sous ces couches qui sont là au deuxième ciel, et puis non, pas non plus de découragement ou autre, pas non plus de jouer à Star Wars, puis de dégommer toutes ces puissances, mais d'aller au-delà des voisins du deuxième vers le Père qui est au troisième. Et là, nos pièces de puzzle commencent à dessiner une image où Dieu parle abondamment, où on est en position d'autorité, où on aimerait aller de là où régner pour être efficace dans le monde ici au premier, que les gens se convertissent, que les gens soient guéris, que les gens soient transformés, qu'ils soient délivrés. Et là, on voit qu'en priant depuis là-haut, c'est efficace. Et la Bible nous dit que la prière de foi est efficace. Mais alors, comment avoir plus de foi ? Comment être plus efficace dans la prière pour qu'il y ait moins d'écart entre ce que je prie et les exaucements ? Et bien, c'est justement ça la pièce de puzzle de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Mais on entend quoi ? Dans ma vie, qu'est-ce que j'entends ? Alors, on entend plein de choses à longueur de journée. J'allais dire au premier étage, au premier ciel, les problèmes, les circonstances qui devraient changer devant moi. On entend tout ce que les médias communiquent. J'entends parfois aussi peut-être les voisins du deuxième, spirituellement parlant, c'est-à-dire ces atmosphères spirituelles de découragement, ou bien des choses qui sont là de génération en génération, de la crainte, le doute, de l'intimidation. Vous avez déjà essayé dans le concret de lire un livre ? Alors qu'il y a les voisins du dessus qui écoutent la télé à plein tube, c'est pas évident. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et pour ce verset, pour être clair, lorsqu'il est dit « la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu », ça ne veut pas juste dire « ce que j'entends vient du livre de la Bible », qu'on appelle aussi « parole de Dieu ». Alors bien sûr, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est notre référence. Je vais encore le dire plus tard, je l'ai écrit, mais je veux déjà le dire maintenant. Vraiment, qu'on puisse vraiment s'en nourrir. Mais ce mot traduit par parole de Dieu, là qu'on met parole de Dieu, ce n'est pas Bible. Ce n'est pas ce qu'on entend vient de la Bible. C'est ce qu'on entend vient de Réma. Et Réma, c'est quoi ? Alors bien sûr, on dit des fois c'est une révélation, parole révélée. Mais si on regarde vraiment ce que ça veut dire, c'est ce qui a été émis par une voix. La chose dite. Ça veut aussi dire tout son produit par la voix, ayant un sens défini. C'est aussi une parole, un discours, ce que quelqu'un a dit. Donc la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, elle vient de ce qui a été dit, de ce que j'entends. Je commence à comprendre tout à coup beaucoup mieux comment avoir une foi et une prière plus efficaces. Et souvent on nous dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, alors lis la Bible et tu auras plus de foi. Alors on la lit, on la décortique, on l'analyse. Et puis voilà, alors lire la Bible, pour moi, c'est comme manger du pain. C'est quelque chose qui est indispensable pour grandir dans notre vie de tous les jours, pour notre croissance. Moi, je suis fan, il y a une telle puissance, substance de vie. La Bible est la parole de Dieu et est la vie. Alors ça, c'est absolument clair, je ne mets aucun bémol à ça. Mais ce verset, il dit plus que ça. Alors Dieu peut nous parler, alors que tu lis un verset, tout à coup, c'est comme si le Père, alors que tu es dans sa présence, il te parle ce verset. Alors ça, c'est clair. C'est une parole révélée, c'est ça le réma. Mais la foi, elle vient de ce que j'entends, et ce que j'entends, c'est une voix. De ce qui est dit justement par le Seigneur. Cette parole révélée, ce son émis, ce que j'entends dire alors que je suis dans le Notre Père, qui est au ciel, que je suis au troisième. Et je peux prendre un verset au premier étage, le dire, le redire. Il peut avoir peut-être peu d'effet. comme les gens dans Actes 19 qui essayent d'être efficaces dans la prière en chassant des démons au nom de Jésus. Et puis, parce qu'ils ont vu comment ça marchait, alors ils répètent les mêmes mots que disait Jésus. Puis l'esprit mauvais leur répond, mais je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, vous êtes qui ? Et pour avoir une foi plus grande, et donc pour être plus efficace dans ma prière, je ne vais pas juste parler humainement, mais avec foi. Cette certitude, cette conviction, cette foi, elle vient parce que j'entends papa le dire. Parce que j'entends papa le dire. Alors bien sûr, quand je lis la Bible, il peut me dire, il peut me faire ressortir ces versets qui sont là. C'est comme un rhéma. Il peut me parler aussi par la parole, mais aussi il me parle, comme on a vu dans le message, par des impressions. Il peut me parler par une image, il peut me parler par une voix intérieure, etc. Du coup, si je prie ensuite au nom de Jésus, ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une formule magique. Je prie au nom du Père que je viens d'entendre dire quelque chose, et je le prie sur la terre pour que ça se passe. Des fois, en prière, je te prie au nom de Jésus, mon nom... Je prie ce que moi j'ai envie au nom de Jésus. Mais quand tu entends le Père dire quelque chose et que tu es convaincu que c'est ce qu'il veut et que tu le déclares au nom de celui qui le veut et au nom de celui qui vient de le dire, là ça bouge. Et je crois que notre rôle, nous qui sommes ici des êtres en chair et en os dans ce monde, au premier ciel, c'est de déclarer les choses qu'on a entendues et vues au ciel dans sa présence. Et là on aura la foi. Pas parce qu'on a entendu juste ces choses, parce qu'on a entendu ces choses et qu'on sait que Dieu les veut vraiment sur terre. D'où l'importance d'aller plus loin dans un Dieu qui parle. Donc, au nom de Jésus, au nom de ce Dieu qui est dans le ciel, je prie. Je prie. Du coup, notre prière va vraiment être une prière de foi. Du coup, on va vraiment régner. Un exemple, cette semaine, je ne voulais pas prendre un exemple d'il y a 6 mois, mais cette semaine, à côté de mon emploi ici de pasteur à l'église Passion, j'ai un emploi dans une entreprise de réinsertion à 30% à Teen Service avec mon collègue Steve. On est co-directeur de cette entreprise. On est 7 employés. En tout, on a aussi des personnes en réinsertion qui nous sont envoyées. Parfois, on en a 3, 5, 7. Des fois, on est 10 le matin. Des fois, on est 4, 5. Enfin, c'est tout par vague. Au premier semestre de cette année, on avait un peu un manque de personnes en réinsertion. Alors, c'est vrai, on est là pour les aider, mais quand ils sont là, ça nous aide aussi pour les mandats de débarras, de déménagement que les autres employés ont. Et puis, on a prié et Dieu a vraiment répondu. On a eu tout à coup plein de personnes. Et puis, peut-être que c'est parce que le travail est tellement bien fait. Il y en a un qui est sur le point de trouver un travail et 2 qui sont en insertion qu'on engage. Alors, ils ne sont plus en insertion, tant mieux, ils sont engagés. Mais du coup, il nous manque des gens en insertion. Et voilà que ce lundi après-midi, on a prié avec Steve. Et j'aimerais vous dire que nos séances de direction, c'est des réunions de prière. C'est vrai, vous pourrez aller lui demander si c'est du blabla ou la vérité. Donc, on est là, on prend les différents points et puis ensuite, on prie pour ça. Et on a prié, Seigneur, t'envoie des nouveaux travailleurs, nouveaux travailleurs en insertion, pour leur bien, mais aussi pour le bien de l'entreprise. Et voilà, on prie, on passe à d'autres choses. Et voilà, tout à coup, le téléphone sonne, c'était peut-être 30 minutes plus tard. Peut-être c'est 20 ou 40, enfin, j'aime pas exagérer, puis être à côté de la vérité. Mais ça doit être dans ces... Le téléphone sonne, et moi, j'entends Steve qui parle. Et puis, il dit, oui, alors, vous pouvez... Et c'était un nouveau travailleur, environ une demi-heure après la prière, qui était là, et avec Steve, on se fait des signes. Ouais, il est en train de répondre. Et combien de fois on a fait ce signe ? J'ai presque des courbatures des fois, non ? Souvent, on a prié pour un énorme devis d'une semaine qu'on aura bientôt avant Noël, et puis tout à coup, il y a la réponse, on est là. Dieu, il répond aux prières. La prière de foi, elle est efficace. Alors, on est tous à apprendre comme toi et moi, on n'est pas meilleurs. Mais on voit que dans la Bible, il y a des façons de faire qui permettent que Dieu agisse. Et comme autre clé que j'aimerais encore vous laisser ce matin, après la prière du ciel et la prière de foi, c'est mon dernier point, c'est la déclaration ou la prière déclarative. C'est les proches de la prière de foi. On va déclarer des vérités du royaume de Dieu, les vérités du ciel sur la terre. Et c'est tellement puissant, ce principe-là, que même le monde, il imite ça. Par exemple, avec le développement personnel, il y a des tonnes de livres qui disent que pour réussir, il faut visualiser les choses et il faut les affirmer. Et puis le matin, devant ton miroir, tu dis « je vais réussir, je vais être riche, je vais avoir du succès ». Et il y a beaucoup de livres qui vont dans ce sens. Et j'aimerais dire que c'est une copie humaine du principe de Dieu, visualiser humainement et affirmer. C'est une copie de voir dans le ciel et de déclarer sur la terre. Mais c'est une pâle copie. que de voir dans le ciel ce que Dieu veut et les promesses et le meilleur qu'il a pour nous et les gens qui nous entourent et de les prier sur la terre. Et un des passages les plus connus du monde, c'est une telle déclaration, c'est le fameux psaume 23 où David déclare les valeurs du royaume de Dieu. Il fait une prière de déclaration de foi où il dit, et je n'ai pas tout mis parce qu'on le connaît, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me fait prendre du repos. Il me dirige. Il me redonne des forces. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner, mais toute ma vie, jusqu'à la fin. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il n'est pas en train de mendier. Il est en train de déclarer les promesses du ciel sur sa vie, puis sur les circonstances de la terre, là où il est. Alors, quelles circonstances il a vécues, lui ? Alors, je vais dire mon pauvre ami, mon riche ami plutôt, mais il a vraiment vécu des circonstances vraiment des fois terribles, où il a dû fuir, tout laisser dans le palais, aller dans des grottes, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie l'ascenseur des promesses du ciel sur la terre. Un autre exemple rapide, la création du monde. Le chaos total, il y a de quoi se lamenter. Imaginez le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui discutent une séance de direction pour voir comment faire la terre. Ben, le Père aurait pu dire, qu'est-ce que tu veux faire, papa ? T'as vu, il n'y a rien, c'est informe, c'est vide, il n'y a même rien pour modeler. Donc c'est à partir de zéro. Ils auraient pu décrire le néant et le vide et toutes les difficultés qu'ils vont avoir. Non, Dieu déclare et la chose se passe. Dans sa position du ciel, il a déclaré et les choses ensuite s'alignent sur la terre. Comme le dit le psaume 33, verset 9, « Car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Et si Dieu il fonctionne comme ça, on a vu qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et c'est un exemple pour que nous, on fonctionne pareil aussi, qu'on puisse parler les choses pour qu'elles existent. On a été créé à son image. Et pour moi, c'est ça, prier. Alors, bien sûr, on peut se confier, on peut parler, mais la prière efficace, c'est ça. Déclarer afin que les choses se passent. Et Dieu veut vraiment nous montrer comment faire. Et c'est ça, la prière du troisième. Puis j'invite le groupe qui va pouvoir venir. J'ai bientôt terminé, mais j'aimerais encore finir. J'ai commencé avec Jésus, je vais finir avec Jésus. Bien sûr, il faut rester vrai, il faut rester authentique. Jésus, il l'a été avec son Père. Avant de mourir, avant le sacrifice volontaire à la croix, pris d'angoisse, il a dit au Père son état d'âme. Mais là, à nouveau, je trouve hallucinant de lire ces versets qu'on connaît depuis longtemps, peut-être avec le regard de ce qu'on vient de voir ensemble. Imaginez Jésus dans le jardin de Gethsémané, juste avant ce non-retour. Il sait que s'il se laisse arrêter, c'est fini. Il va être pris, il va être mis à mort. C'est encore maintenant qu'il peut intervenir. C'est jour J-1, c'est la dernière nuit avant d'être arrêté. Et Jésus n'est pas bien du tout. Et Matthieu 26, 36 et suivant nous dit là, Jésus se rendit avec les disciples dans un endroit appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commence à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. Il avait des sentiments terribles et il les dit. C'est pas ça que je disais avant, qu'on n'ose pas se confier à Dieu. Il les dit à son Père. Et ce mot traduit par angoisse, si on regarde ce que ça veut dire vraiment, ça veut dire grande détresse, dépression, tourment. C'est puissant ce qu'il a vécu. Et la traduction en anglais, The Message, dit même, si on traduit en français, cette tristesse écrase ma vie. J'ai l'impression de mourir. C'est ce qu'il dit à son Père, Jésus. Et je pense qu'il n'y a pas pire comme oppression et comme circonstance que ce qu'il a vécu lui. Mais la suite, elle est frappante. Qu'est-ce que va faire notre Jésus, notre modèle ? Est-ce qu'il va énumérer toute l'injustice qu'il vit ? Lui qui est parfait, qu'on accuse de tous les maux, alors qu'il n'a rien fait. Est-ce qu'il va décrire la situation de long en large vers son Père ? Non. C'est fou, dans Matthieu 26, 39, il est dit, étant allé un peu plus loin. Jésus se prosterne le visage contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est dingue. Il vit l'angoisse, il a l'impression de mourir. Il ne s'est pas battu contre les circonstances pour trouver une autre solution de salut. Il aurait pu réfléchir à ça. Il ne s'est pas battu contre les puissances de l'ennemi au deuxième ciel, au deuxième étage, qui voulaient l'écraser à mourir tellement il était oppressé. Il fait quoi ? Il se prosterne, visage contre terre, et il se connecte vers son papa au ciel. Et il adore. alors qu'il est écrasé. Et il dit « Mon Père, Papa ». Il se connecte au Papa au ciel, alors qu'il est plus bas que tout. Par la prière, il a une posture d'adoration. Il se connecte à son Papa au troisième ciel. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Pas ma volonté, pas mes sujets de prière, mais ce que toi t'as envie, ta volonté, ce que toi tu veux. Waouh ! Ce qui est juste au ciel doit s'aligner sur la terre. Ce que toi tu veux au ciel s'accomplisse ici, du haut en bas. Et c'est pas, tu vois ici ce que je vis, ce que je voudrais, c'est que cette coupe elle s'éloigne. J'aimerais que tu trouves une autre solution, j'aimerais pas mourir, j'aimerais arrêter de souffrir. Mais là il dit, Père, que ta volonté qui est au ciel se manifeste ici sur la terre. C'est ça qui compte finalement, même si je préférerais m'en passer, c'est ça qui compte, Papa. Quel exemple de prière, notre Père. Comme le Notre Père. Il a commencé avec le Notre Père et comment il finit à Gethsémané. Et dans ce moment-là de prière, il s'est retrouvé seul. Ses disciples sont même endormis. Il était tout seul et Jésus vient vers eux et le dit, « Mais vous n'avez pas pu rester réveillé une heure avec moi ? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. » Ils ne sont pas juste pris de fatigue parce qu'ils ont peu dormi. Quelque part, ils subissent le premier ciel, les circonstances. Ils subissent même l'oppression. Ils sont abattus, ils sont écrasés. Ils dorment. Il y a de quoi enfoncer Jésus, c'est plus proche le lâche. Mais au verset 42, il est dit, « Jésus s'éloigne une deuxième fois. » Et il fit cette prière, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » À nouveau, il se connecte au Père. Il n'a pas fait une prière de 15 minutes, mais il s'est connecté au Père pour que la volonté du ciel s'accomplisse sur la terre. C'est super hard ici ce qu'il vit, mais il dit, mais finalement, Père, ce qui compte, c'est que toi, tu fasses le mieux. Et le Père, il sait que le mieux, ce n'est pas de soulager son chéri Jésus. Parce que pour le salut de l'humanité, il faut que l'agneau parfait paye pour toi, pour moi. Il savait que c'était ça le meilleur. Et là, que va faire Jésus ? Il va retourner encore vers les disciples et les trouve de nouveau, encore une fois, endormis. Et là, le verset 44 nous dit, « Il les quitta, il s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. » À nouveau, Jésus se positionne, il prie le Père malgré les circonstances, en désirant, déclarant la volonté du Père sur la terre. Trois fois, il a dû se positionner. Tout ce qu'il vit, c'était le plus hard qu'on puisse vivre, je pense, sur terre. Et il est allé au bout, au niveau de la prière. Il a insisté, proclamant trois fois la même chose. Je ne crois pas qu'il se répète, mais il a dû se positionner, insister, dire « Ce qui compte, ce n'est pas les circonstances pénibles ici du premier ciel, mais c'est ta volonté, Papa, au ciel, qui doit se manifester sur la terre. » Et quelle magnifique victoire ça a permis. Et dans la Bible, le chiffre 3 est souvent associé à la perfection, à l'achèvement. Il est allé au bout, non seulement du sacrifice, mais il a tenu jusqu'au bout avec la prière. C'est ça le combat dans la prière qui amène la victoire. Il n'a pas pressé qu'une fois, il n'a pas juste pressé l'ascenseur, mais il a insisté, il s'est positionné pour que la volonté du Père s'accomplisse sur la terre. Et ça peut être interprété comme un symbole de persévérance, de détermination. Il a dû tenir bon, ce n'était pas juste comme ça. Et c'est aussi un exemple de comment se positionner dans la prière. C'est fort. Et là, ce matin, je désire qu'on puisse se positionner. Jésus, il n'a pas fait le déni des circonstances. Il aurait préféré s'en passer. Il ne les a pas évités non plus, les passer au travers par la victoire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, alors qu'on va terminer, peut-être qu'aujourd'hui, tu vis un Gethsémané. Alors, je le dis avec respect parce que je pense que ce n'est pas possible de vivre un Gethsémané comme Jésus. Donc, je ne veux pas amenuiser le Gethsémané qu'il a vécu. Mais peut-être que tu vis une période difficile comme un Gethsémané. Ou peut-être que tu vis ta meilleure vie. Tu vis une magnifique saison de vie. Gloire à Dieu. Mais dans tous les cas, c'est toujours le premier ciel. Et que tu vives une saison de vie magnifique, ta meilleure vie, ou que tu vives un Gethsémané. Dieu désire nous appeler tous à nous connecter au Père, notre Père, qui est où ? Au ciel, pour que de là on puisse prier ce que lui désire, ce que lui nous susurre à l'oreille, ce que lui nous fait découvrir par la parole, pour qu'on puisse le prier sur la terre. Des prières de haut en bas, et pas des prières de bas en haut. Des prières de haut en bas qui sont efficaces, et pas des prières de bas en haut. Seigneur, je te prie que tu puisses nous amener plus loin, Seigneur. Ce n'est pas juste un message pour apprendre quelque chose d'autre. Seigneur, c'est parce que j'ai envie que mes prières soient efficaces. Seigneur, on a vu que des fois, on n'est pas exaucé parce qu'on demande mal. Seigneur, j'ai envie de demander juste et d'apprendre à le faire toujours plus juste, d'entendre ce que tu dis, d'être au ciel avec toi. J'ai aussi envie, Seigneur, d'avoir une foi qui grandit parce que la prière de foi est efficace. Et Seigneur, la foi, elle vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends, elle vient de quand tu me parles. Et j'ai envie que tu me parles. Et Seigneur, je veux déclarer, pas juste ce que je vois ici au premier étage, mais je veux déclarer les choses du ciel, les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Je veux les déclarer sur la terre. Et Seigneur, je te prie que tu fasses de nous des personnes déterminées, comme Jésus qui a prié 3 fois la même chose, que ta volonté s'accomplisse sur la terre et ça a amené un salut pour l'humanité entière il y a 2000 ans. Et Seigneur, on désire pas juste prier pour nos besoins, mais Seigneur, je désire que mon monde s'élargisse et que je puisse prier ce que toi tu désires pour mon entourage, pour mes amis, pour cette région, pour mon travail, qu'on puisse prier ce que toi tu veux, Seigneur. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, donne-nous d'aller vers toi au ciel et donne-nous cette persévérance, donne-nous cet élan de prier ta volonté. Amen. Amen.
Merci David.